Je vais commencer par une illustration. Donc j'ai devant moi la petite canette vide. Enfin, vide. C'est ceux qui font le mélange qui vont m'en vouloir maintenant. Et puis une balle de tennis. Alors je vais faire deux choses avec ces deux objets. Je vais écraser la canette. Ah non, c'est toi qui vas le faire, tu es plus fort que moi. Ah, tu as bien fait de venir. Tu le fais comment? Non, tu le fais avec les mains. Là. Non. Voilà. Voilà. Et tu veux essayer de faire la même chose avec ça? Un peu? Non, non, mais ça, il y a un peu, appuie dessus un peu. Tu vas y arriver un peu. Toi, tu y arrives. Tu vois? Le problème avec... Vous voyez la différence? C'est que quand on écrase cette canette, ça va être difficile de la remettre dans sa forme initiale, vous voyez? Ça va être compliqué. En revanche, quand on écrase cette balle de tennis, c'est pas facile, mais on peut y arriver, en étant plus costaud que moi. Mais dès que je lâche, vous voyez là, ça reprend sa forme initiale. D'accord? Alors de quoi allons-nous parler ce matin? Je donnais pour titre la largeur et la longueur de l'évangile. La profondeur, j'ai dit la longueur. Regarde ce qui est écrit, mais moi j'ai pas les yeux derrière la tête. Ouais. Et da, oh là là. Vous mettez le L? La largeur et la profondeur de l'évangile. Avec cette illustration, de quoi allons-nous parler? Alors là, quelqu'un qui a une idée, hein? Parce que moi, j'en ai pas. Avec cela, nous allons parler... Oh oui, on va parler de Dieu, ça c'est sûr. Oui. Là, t'es pas loin du sujet, là. Là, c'est sûr. Dans un tel lieu, en général. Au travers de cette illustration, nous allons parler du changement. Alors, quand on parle de changement en ce moment, vous savez qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle en 2012 qui avait pris comme slogan de sa campagne présidentielle, le changement c'est maintenant. 4 ans après... Bon, allez, on va pas faire de politique ce matin. Donc, c'est pas de ce changement-là dont nous allons parler. Ça, je laisse aux hommes politiques, c'est leur boulot. On est là pour prier pour eux, quand même. C'est pas un travail facile. Le changement dont je veux parler, c'est du nôtre. Parce qu'en fait, ce qui nous a intéressé dans l'Évangile, c'est pour cela que nous sommes venus à l'Évangile, c'est que dans l'Évangile, nous avons trouvé une promesse de changement. Et nous savions au fond de nous-mêmes que quelque part nous avions besoin de changer. Il y a des choses qui ne devaient plus être là. On a essayé avant, par d'autres moyens, mais on n'était pas arrivé. On a bien essayé les bonnes résolutions du début de l'année, mais d'une manière générale, ça ne marche pas beaucoup ça. Ça marche combien? Une semaine? 15 jours? 1 mois? C'est pour ça qu'on refait les mêmes chaque année. Parce que le changement dans notre vie, dans notre cœur, ce n'est pas quelque chose de très simple. Alors le changement, parfois et très souvent, il est lorsque j'appuie sur une balle comme celle-ci. Alors il peut se passer quelque chose, effectivement, je peux y arriver, mais dès que je lâche, ça reprend sa forme initiale. Et dans le changement, c'est ce que souvent nous vivons. Avec la volonté, avec de bonnes résolutions, je peux arriver à changer certaines choses, mais très vite, dès que je me relâche, ça revient et ça repart comme avant. Non, vous n'avez pas constaté cela? Le changement qui nous intéresse, c'est celui qui est illustré par cette canette. Parce que quand je l'écrase... Là, elle change de forme Et là, on peut dire que c'est définitif. Là, ça va être difficile de la remettre comme cela, enfin, par nos moyens à nous, là, dans sa forme initiale. C'est de ce changement-là, c'est ce changement-là qui nous intéresse. C'est celui, je pense, que nous sommes appelés à vivre les uns les autres, et que nous avons déjà commencé à vivre. Je suis sûr que les uns les autres, vous pourriez témoigner ce matin de choses qui faisaient partie de votre vie, dans votre passé, que sais-je, peut-être la crainte, la peur qui vous dominait, l'inquiétude, et puis aujourd'hui, vous pouvez dire, ben non, je ne vis plus dans la crainte. Je peux peut-être avoir des fois des moments de crainte, bien sûr, mais je ne vis plus dans la crainte. Ce n'est pas un état permanent dans ma vie. Et pour d'autres, parlant de certaines addictions qui étaient les vôtres, chose que vous ne pouviez pas vous défaire, vous avez bien essayé par bien des moyens, et puis aujourd'hui vous pouvez dire non, moi je suis libéré, ces choses-là maintenant, ça ne fait plus partie de ma vie. Le changement est définitif. Ça, c'est comme la canette. Et c'est ce changement-là qui est important. Mais soyons honnêtes. Trop souvent, notre changement, il est quand même encore dans notre vie chrétienne, il ressemble à celui-ci. Peut-être c'est ce que certains ont vécu il y a 15 jours, 3 semaines, lorsque David était là. Et vous êtes levé, vous avez dit, Seigneur, maintenant je veux cette victoire par rapport à cette personne, je veux vraiment pardonner, plus avoir d'amertume, de ressentiment. Puis ça s'est bien passé pendant 2-3 jours, pendant une semaine. Et puis hop, il s'est passé quelque chose, une rencontre, le souvenir de quelque chose qui vous a été redonné, et puis ah, vous avez vu l'amertume revenir comme avant. C'est ça. Et ça, on ne veut pas le vivre. Alors même si je sais, dans le processus dans le pardon, c'est un processus, hein, ça peut se faire par étapes, donc ce n'est pas parce que tout n'est pas fait d'un seul coup, des fois on voudrait que tout se fasse d'un seul coup, ça ne se fait pas. Ça peut se faire par étapes. Mais quand même, on voit bien que dans certains domaines de notre vie personnelle, de notre comportement, de nos attitudes, il y a des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser. On essaye de le faire, on prie pour cela, on se lève quand le pasteur ou quelqu'un fait un appel à ce sujet, on demande à Dieu, on croit de tout notre cœur, et puis on est bien pendant quelque temps. Et puis, après, ben, ça reprend sa forme. La colère, par exemple. Il y en a qui luttent avec cela. La non-maîtrise de soi. Alors, lorsque vous priez, lorsque vous faites attention, effectivement, vous pouvez passer une semaine et vous dites au bout de la semaine, Seigneur, merci, pendant une semaine, et puis, boum, il se passe quelque chose le dimanche en venant ici. Allez, non, lundi matin, en allant au travail, c'est plus facile. Et hop, c'est parti, comme autrefois. Ça, c'est dur à vivre. Parce qu'on veut changer. On est culpabilisé par cela. On sait qu'on traîne cela depuis des années. On n'arrive pas. Alors, c'est pour ça qu'on va ensemble parler de la longueur et de la profondeur de l'Évangile. À partir d'un épisode qui nous est raconté dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, c'est l'apôtre Paul qui, bien sûr, écrit cette lettre et qui dit et qui raconte une sorte d'anecdote, ce qui s'est passé dans cette église d'Antioche lorsque Pierre est arrivé à Antioche, alors que Paul y était. Il nous a dit ceci, « Lorsque Céphas vint à Antioche, Paul dit, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, donc ces personnes de Jérusalem qui sont arrivées, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Pour bien comprendre ce qui s'est passé là, il faut dire un mot certainement sur le contexte, bien sûr, de cette lettre. Si on devait résumer l'épître aux Galates en deux mots, on donnerait ces deux mots-là, la croix et l'esprit. On parle du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. La croix, parce que c'est ce que les Galates, les chrétiens de cette région d'Asie mineure à cette époque, c'est ce que ces chrétiens essayaient de diminuer en fait. Et pour Paul, tout ce qui pouvait diminuer, rabaisser la croix, c'était anathème. Il fallait le rejeter avec force. Et vous voyez bien aussi que dans le comportement de ces chrétiens, ils essayaient de remplacer l'esprit par la loi de Dieu, la loi de Moïse, par les règles, en fait par la volonté humaine. La croix, c'est quelque chose de très présent dans l'épître aux Galates, et l'esprit aussi. C'est là que vous trouvez dans cet épître, bien sûr, la liste du fruit de l'esprit. C'est là que Paul dit comment nous devons marcher par l'esprit. Mais Paul voyait bien que ces chrétiens qui voulaient remplacer l'esprit ou la loi, l'esprit par la loi, ils voulaient faire les choses par leur propre volonté. Et tout cela était arrivé parce que, après le passage de Paul dans cette région, pendant cette période, Paul a implanté un certain nombre d'églises, il a apporté l'Évangile et un certain nombre se sont convertis. Après son passage, il y a des hommes, des docteurs, des faux docteurs qui sont passés dans ces églises. Certains peut-être pouvaient venir de Jérusalem, qu'on appelait les judaïsants. C'est pour ça que Paul termine en disant à Pierre, « Forces-tu les païens à judaïser ?» C'était ces juifs qui s'étaient convertis et qui voulaient que dire aux païens que s'ils, enfin, eux-mêmes pensaient que pour rester de toute façon un bon chrétien, il fallait continuer à obéir à la loi de Moïse. Alors je ne parle pas de la loi morale, mais la loi cérémonielle, toutes les lois alimentaires, vestimentaires qui existaient dans la loi de Moïse, les fêtes religieuses, etc. Il fallait qu'eux gardent cela, et il fallait aussi que les païens, c'est-à-dire les non-juifs qui s'étaient convertis, qui eux n'avaient jamais pratiqué ces choses, il fallait qu'ils commencent à pratiquer ces choses, en commençant pour les hommes, bien sûr, par la circoncision. Ça, c'est le message qui avait parcouru dans ces églises et qui fait que l'apôtre Paul a dû dire à ces chrétiens de Galates, lorsqu'il écrit cette lettre au début du premier chapitre, il leur dit « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas, dit-il, qu'il y a un autre évangile, il n'y a pas d'autre, mais voilà, vous avez déformé, transformé, altéré l'évangile de Christ. Vous êtes éloigné de cet évangile. Au travers de ces enseignements qui avaient été disséminés, apportés dans ces églises de la Galatie. Paul, alors pour cela, bien sûr, il a fallu qu'il trouve des arguments pour discréditer l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était quand même l'autorité spirituelle pour ces chrétiens. C'est lui qui avait apporté l'Évangile. Il connaissait son autorité, même sa légitimité, en fait, en tant qu'apôtre. Mais il fallait qu'il porte atteinte à la légitimité, à l'autorité de Paul. Alors pour cela, l'argument qu'ils utilisaient, c'était de dire « Ah ouais, mais Paul, lui, c'est pas un des 12 apôtres. Il n'a pas été avec Christ. Lui, c'est un autre apôtre, mais beaucoup moins qualifié que les apôtres de Christ qui sont à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette première lettre, et dans cette lettre, Paul doit expliquer comment il s'est converti, et comment il a reçu cet évangile directement de Christ. Il dira, par révélation, c'est pas en allant à Jérusalem, en rencontrant Pierre, qu'il a découvert l'évangile. Non, non, il a découvert l'évangile directement par Christ. Il a reçu de Christ cette révélation. Alors après, bien sûr, il pouvait penser qu'on allait dire de lui, bah oui, mais à ce moment-là, lui, il n'est pas en phase directement avec les apôtres de Jérusalem qui sont plus judaïsants, c'est-à-dire qui donnent beaucoup d'importance à la loi de Moïse. Et Paul explique, il dit, non, attendez, j'ai reçu l'évangile directement de Christ, mais je suis allé à Jérusalem. Et j'ai passé notamment 15 jours avec Pierre pour discuter de l'évangile que moi j'avais reçu, et Pierre m'a dit, nous aussi on a reçu le même évangile de Christ. Ils ont constaté qu'ils étaient en phase, qu'ils étaient en harmonie sur l'évangile qu'ils apportaient. C'est la défense que Paul donne dans cette partie de l'épître aux Galates pour expliquer qu'il avait une totale légitimité pour faire comprendre aux chrétiens de cette région que il était un véritable apôtre et que l'évangile qu'il avait apporté, non seulement il venait de Christ, mais en même temps il était aussi en harmonie avec l'évangile qui était annoncé par les apôtres de Christ qui étaient à Jérusalem. Paul raconte aussi comment, dans cette église d'Antioche, où il y avait des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne, des non-juifs, il raconte comment, au travers de Christ, au travers de l'Évangile, toutes ces barrières qui existaient avant entre eux, qui étaient surtout, qui venaient de la part, bien sûr, des juifs, qui disaient qu'ils ne pouvaient pas manger à table avec des non-juifs. Ils étaient, eux, appelés à être purs, à se purifier en respectant toutes ces lois alimentaires, vestimentaires et autres. Et donc, ils ne pouvaient pas manger avec des gens d'une autre culture qu'ils considéraient comme des impurs, parce qu'ils ne pratiquaient pas ces lois. Là, grâce à l'Évangile, toutes ces barrières étaient tombées. Et à Antioche, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est que ces chrétiens, quelles que soient leurs origines, juives ou non-juives, ils étaient ensemble non seulement pour louer Dieu et adorer Dieu, ce qui était déjà extraordinaire, mais même pour manger ensemble. Ils pouvaient aller, des chrétiens d'origine juive pouvaient aller manger chez des non-juifs. Ça ne posait aucun problème, ils ne se sentaient pas impurs par rapport à cela. Ils avaient vraiment compris ce qu'est l'Évangile. Que ces lois, elles étaient là, elles étaient voulues par Dieu, mais pour un temps. Et c'est ce que Dieu avait expliqué, bien sûr, à Pierre, qui était, comme beaucoup d'autres, qui était très fermé par rapport à cela. Et vous vous souvenez certainement de cette vision trois fois donnée à Pierre avant d'aller rendre visite à Corneille, dans Acte 10. Et comment Pierre, qui lui n'aurait jamais mis les pieds dans la maison d'un païen, au travers de ce que Dieu lui a dit à ce moment-là, en lui disant, écoute, ce que je déclare pur est pur. Hein. Allez, point barre. C'est comme ça. Hein. Donc tu peux manger ces animaux. Il lui présente sur une nappe, vous voyez, vous imaginez la scène. Une nappe, et en plus il avait faim ce jour-là. C'était l'heure de midi. Et il voit cette nappe avec tous ces animaux. Et Dieu lui dit, mange. Mais c'était que des animaux impurs. Lui, il les avait jamais mangés, ces animaux. Et Dieu lui dit, tu les manges. Il dira non, trois fois. La troisième fois, il comprend. Il finit par comprendre le message. Des fois, on est quand même dur. Hein. Vous ne reconnaissez pas, là? Il y a deux, trois, là, un peu. Moi aussi, je me reconnais. Parce qu'on est... On met du temps à comprendre ces choses. Nous, ce n'est pas notre problème, mais ça peut être d'autres problèmes, bien sûr. Et pour Pierre, ça a été cela, mais il a eu cette révélation-là, et enfin, il a pu aller manger chez un païen, il a pu apporter l'évangile à cette famille de Corneille, en disant, maintenant, j'ai compris une chose, c'est comme ça qu'il commence. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de favoris. Dieu accepte tout le monde, quel qu'il soit. Et vous aussi, vous pouvez accepter l'évangile, leur dit-il. Et ils vont accepter l'évangile, ces païens. Ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit, même. Alors bien sûr, pour Pierre, ça, ce qui va être compliqué, c'est le retour à Jérusalem. Parce que là, les frères vont dire, t'étais chez qui, toi, à manger l'autre jour? On sait tout maintenant avec Internet, vous savez. Et Pierre a dû expliquer ce qui s'est passé. Alors certains ont été convaincus, mais d'autres n'étaient pas convaincus. Et Pierre arrive à Antioche. Il rend visite à Antioche, il voit une belle église avec des hommes et des femmes de différentes cultures, des juifs, des non-juifs. Et ils mangeaient ensemble, et Pierre, quand ils mangent ensemble, eh bien, il va manger avec eux aussi. Vous voyez ? Et Pierre profite de ce moment, et ils sont dans la communion fraternelle. Il n'y a pas ces barrières. Tout se passe bien jusqu'au jour où des frères de Jérusalem arrivent. Ils venaient vérifier ce qui se passait dans cette église. L'église de Jérusalem, c'était considéré comme l'église mère, vous voyez. C'est l'église principale, c'est la première église, c'est là qu'il y avait les apôtres. Donc ceux qui venaient de cette église, ils étaient très considérés. Et ils arrivent pour surveiller, et ce qu'ils vont voir en particulier, c'est au moment de l'agape, vous savez, le dernier dimanche du mois. Les chrétiens mangent ensemble, enfin, c'est comme ça chez nous. C'était plus souvent chez eux. Et là, ils regardent et ils voient Pierre. Et c'est un chrétien d'origine juive qui mange avec ses païens. Et il se dit, mais c'est pas possible, Pierre. Comment est-ce que tu peux te comporter comme ça? Et qu'est-ce que Pierre fait? Il dit, écoutez les amis, hein, on va revenir à l'évangile. C'est ce qu'il aurait dû faire. Non, la Bible nous dit, il prend peur. Pierre, enfin, t'es pas n'importe qui quand même. Pierre prend peur. Il a peur de ces gens. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on devine un peu, mais exactement pourquoi. Il y avait plusieurs raisons possibles, bien sûr. Le rapport qu'il pouvait faire à Jérusalem, la pression qu'il pouvait avoir. Alors Pierre, vous savez ce qu'il fait à ce moment-là? Quand ses amis chrétiens d'origine non-juive, païen donc, vient lui dire, ben, tu viens manger avec nous, Pierre? Ah non, c'est fini. Je ne peux plus le faire là maintenant. Comment tu ne peux plus le faire? Ah ben non, moi je suis juif. Et vous n'êtes pas juif. Vous imaginez le choc que ça a dû être pour ces gens-là? Vous vous mettez à la place de ces chrétiens, vous dites, mais il nous prend pour qui? Enfin, jusqu'à maintenant, tout allait bien, formidable. Et puis là maintenant, parce qu'il y a ces deux, trois ou plus qui arrivent de Jérusalem, il y a une séparation, il y a une coupure. On ne peut plus manger ensemble. Maintenant, on est les impurs et eux, ce sont les purs. Ça a dû être terrible. Terrible. Et là, Paul, il est obligé de réagir. Paul. C'est Paul qui réagit. Et vous imaginez, mettez-vous à la place de Paul, parce que Paul, certainement, il considérait que Pierre était quelqu'un qui avait eu des privilèges que lui n'avait pas eu, bien sûr. Pierre était une véritable autorité spirituelle. Pierre était considéré comme un guide spirituel. Et ce n'est pas Pierre, à ce moment-là, qui est le guide spirituel, c'est Paul qui devient le guide spirituel de Pierre et qui est obligé de dire en public, devant tout le monde, « Mais Pierre, ça ne va pas, Pierre, tu ne peux pas faire comme ça. » Comme cela, tu ne peux pas avoir ce comportement-là. Parce que Pierre avait entraîné d'autres avec lui, et même Barnabas, qui était là. Paul intervient, il devient le guide spirituel. Et quel est l'argument qu'il utilise? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Quel est l'argument? Ça se trouve au verset 14. Paul voyait qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Il n'était pas en accord avec la vérité de l'Évangile. Il ne faisait pas les choses en conformité avec l'Évangile. Il s'était éloigné de l'Évangile dans un sens. Est-ce que Paul disait à Pierre et aux autres, mais vous devez vous rapprocher de l'Évangile. Vous n'êtes plus sous l'influence de l'Évangile maintenant. Vous l'avez été jusqu'à un temps, mais maintenant vous n'êtes plus sous l'influence de l'Évangile. Ce que vous avez besoin maintenant, c'est plus que jamais d'être sous l'influence de l'Évangile. Et quand Paul parle de l'Évangile, il utilise ce terme, ça a un sens pour lui, je pourrais l'expliquer même à partir de Galates, mais il parle de la mort et de la résurrection de Christ, de l'œuvre que Christ a accomplie pour notre salut. Et à ce salut que Jésus a accompli, comme ça a été dit tout à l'heure dans la prière de Xavier, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Contrairement à ce qu'ils pensaient, qu'il fallait Christ, mais aussi il fallait respecter des lois. Il fallait la circoncision. Il fallait respecter des fêtes religieuses. En d'autres termes, il fallait être un bon juif pour être un bon chrétien, vous voyez. Dans tout ce que la loi de Moïse avait demandé de faire. Mais l'argument de Paul, c'est de dire à Pierre, « Pierre, tu as besoin de l'Évangile. Tu ne peux pas faire sans l'Évangile. Si tu veux changer, c'est l'Évangile qui te fera changer. » Ce n'est pas autre chose. Et c'est le seul argument que Paul donne à Pierre à ce moment-là. Et ça peut s'appliquer à tout le reste. À tout le reste. C'est un cas particulier, bien sûr, qui ne nous concerne pas, nous, aujourd'hui. Mais dans tous les autres domaines, Paul donnerait exactement la même réponse. Là où nous avons besoin de changer, là où nous connaissons des problèmes, nous voudrions changer, on n'y arrive pas, Paul dirait, tu as besoin de l'Évangile. Il te faut un peu plus d'Évangile. Il faut que tu reviennes un peu plus à l'Évangile. Alors pourquoi cela? C'est pour cela que j'ai appelé cela la largeur et la profondeur de l'Évangile. La largeur de l'Évangile. Nous avons tous, les uns et les autres, qui que nous soyons, chrétiens ou pas, en tant qu'individus sur cette terre, nous avons tous ce qu'on appelle une vision du monde ou une représentation du monde, ce que les philosophes appellent un paradigme. Mais on laisse les philosophes de côté, on s'intéresse à la représentation du monde ou la vision du monde. Mais c'est la même chose. Il y en a qui ont étudié ça, certainement. Quand on parle de la vision du monde qui est la nôtre, on parle de croyances fondamentales qui sont les nôtres, d'idées, de convictions personnelles à propos du monde, bien sûr, de l'univers, par exemple, de notre place dans cet univers. Tout le monde a cela. Beaucoup n'en sont pas conscients, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui se construit avec le temps, avec les années, l'influence de la famille, du milieu, de la culture dans laquelle nous sommes. Mais on a tous cela, en fait. Parce qu'on a tous besoin de donner un sens à notre vie. Pourquoi est-ce que nous sommes ici, ça? Ce sont les réponses qu'on essaye de donner à ces questions les plus importantes, les questions qu'on qualifie d'existentielles, qui sont liées à notre existence sur cette terre. Pourquoi est-ce qu'on est là? D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Pourquoi le mal? Le sens de mon existence? Est-ce que la vie s'arrête après la mort? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Que dois-je faire de ma vie? Vous voyez, toutes ces questions-là, on essaye bien sûr d'y répondre. On essaye de trouver des réponses. Et on se donne, et comme ça, on a des croyances, on se donne des idées, on a des convictions par rapport à cela. Et une fois qu'on nous avons cela, ça nous donne un filtre pour analyser tout ce qu'il y a ici-bas, et tout ce qui nous arrive, les événements, les circonstances de notre vie. Si vous avez la vision du monde d'un athéiste, par exemple, de quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, ben sûrement, ça va l'amener à regarder le bien et le mal de manière très différente de celui qui croit que Dieu existe. Si nous croyons que Dieu existe, nous croyons que Dieu donne aussi une morale, une loi, et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, et que le bien existe, et que le mal existe, et c'est Dieu qui définit ça. Mais si on ne croit pas que Dieu existe, bah, le bien et le mal, tout ça, c'est relatif. On fait ce qu'on veut, donc. Et c'est la liberté que l'on veut. Nous avons... C'était pas la nôtre au départ, bien sûr, hein. Pour la plupart d'entre nous, à moins qu'on soit né dans une famille chrétienne, on avait déjà cette vision du monde qui était là dans le milieu, dans l'église où on était, dans la famille, etc. Mais pour beaucoup d'entre vous, vous étiez en dehors. Si vous étiez en dehors, vous aviez une autre vision du monde. Mais En recevant l'Évangile, nous avons accepté la vision du monde, la représentation du monde que la Bible nous donne, en fait. C'est par exemple que ce monde, il a été créé. Donc que Dieu, si Dieu existe, il est le créateur de ce monde. Donc s'il est le créateur, quand je regarde ce monde et ma vie, je me dis, ma vie, elle a un plan. Si j'ai été créé par Dieu, c'est pour quelque chose. Donc elle a un but, elle a un plan. Vous voyez, c'est tout de suite ce que ça va me donner comme conviction. La vision du monde que la Bible nous donne par rapport au mal, la réalité du mal, oui, tout le monde se pose la question, parce que ça, on ne peut pas quand même l'éviter. Le mal existe, mais pourquoi est-ce qu'il existe, le mal? La Bible nous explique, et la Bible nous dit, c'est à cause du péché. C'est parce que l'homme a désobéi. Donc, quand on est face à la réalité du mal, on sait d'où ça vient. On sait pourquoi c'est là. C'est comme ça qu'on analyse les choses. Alors, bien sûr, vous allez parler à des gens qui ont une autre vision du monde. Eux, ils ne considèrent pas les choses de la même manière que vous. Et puis, on va un peu plus loin dans la Bible, et que par rapport au mal, la Bible propose une solution, un remède. C'est ce qu'on appelle le salut, la rédemption en Christ. Donc là, bien évidemment, c'est ce que l'on reçoit. Et donc, quand on est par rapport à des problèmes dans notre vie, on parlait de cela tout à l'heure, on a besoin de changer, on voudrait arrêter de faire certaines choses, le mal est là, eh bien, on est là, on sait qu'on a besoin de l'Évangile, et c'est par l'Évangile qu'on va pouvoir être débarrassé de certaines choses. C'est par l'Évangile qu'on sait qu'on peut être pardonné par Dieu, au travers de l'œuvre de Christ, que Christ a accomplie à la croix. Et puis, la Bible nous donne pour l'avenir aussi une perspective, quand elle parle de la nouvelle création. Ça nous donne une espérance. Et quand on est face à la mort, que ce soit notre propre mort ou la mort d'un proche, eh bien oui, grâce à cette vision du monde, on possède une espérance. On n'est pas désespéré comme ceux qui croient pas en Dieu et qui pensent qu'il n'y a rien d'autre de l'autre côté. Vous voyez ? L'Évangile nous donne, ou transforme notre vision du monde, nous donne une vision du monde, une représentation du monde bien particulière. Nous savons que l'Évangile est là pour définir ainsi nos valeurs, notre conduite, ce que nous devons croire, ce que nous devons accepter, ce que nous ne devons pas accepter. Parce que vous savez, il y a une réalité qui est la suivante. Nous faisons ce que nous croyons. Nous vivons en fonction de ce que nous croyons plus profondément. Vous regardez quelqu'un qui vit et vous allez découvrir ce qu'il croit. On n'y échappe pas. Si je ne crois pas en Dieu, bien évidemment, ça va influencer toute ma vie. C'est sûr. Quand je parle de la largeur de l'Évangile, c'est ça. La largeur de l'Évangile, ça veut dire que l'Évangile va embrasser toute notre vie, tous les domaines de notre vie, qui sont appelés à connaître cette influence qui va changer notre façon de voir les choses et de faire les choses. J'ai pris quelques exemples, mais je pourrais en prendre, la liste n'est pas exhaustive, je pourrais en prendre bien d'autres dans cette liste, si tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. La vision du monde, la vision chrétienne du monde, l'Évangile influence notre vie par rapport au bien de cette terre, au bien matériel, et par rapport à l'argent. Bien évidemment, je n'ai pas le même rapport à l'argent aujourd'hui que je suis un chrétien qu'avant, ou au bien de cette terre. Je considère que maintenant, au travers de l'Évangile, que je ne suis pas le propriétaire de ces choses. Même si par rapport aux hommes, je suis le propriétaire d'une maison, d'une voiture ou que sais-je. Mais ce n'est pas moi le propriétaire, c'est Dieu qui est le propriétaire. Ces biens, ils m'ont été donnés. Je suis le gérant. Je suis là pour prendre soin de ces choses et j'aurai des comptes à rendre de ce que Dieu m'a donné. Vous voyez, ça va influencer ma relation au bien de cette terre, à l'argent aussi. Est-ce que je vais faire avec l'argent? C'est pas mon argent, c'est l'argent que Dieu m'a donné. Et oui, c'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour les autres. C'est pour partager avec les autres. C'est pour répondre aux besoins des autres. L'Évangile va transformer ma façon de voir ces choses. Parlons de la sexualité, on pourrait en parler, bien sûr, plus en détail. Mais c'est la même chose. Quelle sexualité avoir? Ben, si je ne crois pas en Dieu, ben, je fais ce que je veux. Hein. Vous voyez? Qui c'est qui va me dire ce que je dois faire? Et c'est bien la société dans laquelle on est aujourd'hui. Mais si j'ai l'Évangile avec moi, l'Évangile m'apporte une éthique dans ce domaine. Dieu me dit, oui, la sexualité, elle est là, elle existe, elle a sa place, mais dans un cadre particulier. Et j'accepte cela, et bien sûr, j'intègre ça dans ma vie. Dans ce sens, je me laisse influencer par l'Évangile. L'attitude que je peux avoir par rapport aux pauvres, aux nécessiteux, je ne peux pas rester indifférent, bien sûr. La Bible donne aussi, dans ce domaine, des directives par rapport à mon passé aussi. Vous voyez, quand je porte ces erreurs du passé, ces choses que j'ai ratées, qui sont là, qui gâchent mon présent et qui vont aussi gâcher mon avenir, ben, par rapport au passé, bien sûr, quand l'Évangile dit « toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles », ben, ça change beaucoup de choses, bien évidemment. Sans l'Évangile, j'ai du mal à gérer ça. Je porte ça comme un poids, comme un fardeau. Mais c'est vrai par rapport à l'avenir aussi. Quand je pense à mon avenir, si j'ai l'Évangile, j'ai une véritable espérance. Donc je n'ai pas la peur, soit de la vieillesse, soit de la retraite ou de la mort. C'est... Par rapport à l'étranger aussi. C'était le problème de Pierre, ça. C'était son problème, parce que c'était du racisme. Eux, ils s'étaient construits ainsi en Israël, au travers de la loi, mais le nationalisme, il est dans toutes les nations. Hein. Mais c'était vrai aussi en Israël, il y avait ce nationalisme exacerbé qui faisait que les Juifs se disaient, ben, ils sont supérieurs aux autres, parce qu'eux, ce sont les purs, par rapport aux autres qui étaient les impurs. Et il déconsidérait, il méprisait les choses, les autres nations, les autres peuples. Le racisme était très présent. Eux étaient les purs. Vous savez, il y a toujours eu quelque chose de terrible au travers de cela, la rhétorique de la pureté et de l'impureté. Parce que poussé à son comble, vous savez ce que ça donne ? Le terrorisme. C'est ça dans l'islam radical. Ce sont des gens qui se disent ils sont purs. Et ils veulent purifier le monde. Et ils veulent purifier le monde même s'il faut détruire la moitié de l'humanité. Ils veulent purifier le monde. Il n'y a rien de plus dangereux que ça. Et Pierre était dans cette pensée-là, dans cette philosophie-là. L'Évangile vient transformer cela. Paul dit à Pierre, Paul aurait pu dire à Pierre, tu te rappelles de la petite vision que tu as eue là avant d'aller chez Corneille? C'est vraiment qu'il s'en rappelait. Et je pense que ça aurait eu un effet direct sur lui. Est-ce que ça aurait suffi pour le transformer? Parce que la preuve, hein, il n'était pas encore totalement changé. Hein. Paul aurait pu dire à Pierre, Pierre, c'est que dans la Bible, Dieu, c'est pas le comportement qu'il nous demande d'avoir vis-à-vis des étrangers. Il y a des paroles fortes dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, par rapport à l'étranger, pour le peuple d'Israël. Et Paul aurait pu rappeler cela pour dire, tu sais, Dieu n'aime pas le racisme. C'est pas ce que Paul a fait. Paul a dit, Pierre, ce que tu as besoin, c'est un peu plus d'évangile. C'est un peu plus de Christ. Parce que c'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te permettre d'accueillir l'étranger, quel qu'il soit, maintenant que tu es en Christ. Vous voyez que la largeur de l'Évangile, elle concerne tous les domaines de notre vie, sans exception. L'Évangile doit arriver à pénétrer, à influencer tous les domaines de notre vie. Christ s'intéresse à toute notre vie. Paul dit à Pierre, il te faut l'Évangile, C'est-à-dire, il te faut un peu plus de l'Évangile. C'est pas que tu as trop d'Évangile, Pierre, c'est que tu n'en as pas assez. Est-ce que ce dont tu as besoin, c'est plus d'Évangile? C'est-à-dire, Paul dit à Pierre, l'Évangile, ce n'est pas seulement quelque chose de large, c'est quelque chose de profond, de très profond. C'est l'Évangile qui doit pénétrer en nous aussi profondément. Comment cela? Je pourrais développer ça, mais... Oh là 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 là, Seigneur. On va en rester là ce matin. Ok? Mais promettez-moi une chose, c'est de revenir la semaine prochaine. Parce qu'on poursuivra ça la semaine prochaine. Parce que ce qui suit est fondamental. Mais déjà, ce qui a été donné, je pense que ça peut nous aider les uns et les autres à voir la largeur de l'Évangile. Combien l'Évangile est là pour toucher tous les aspects de notre vie. On va s'arrêter là parce que on a tellement de choses à faire et à voir et je voudrais distribuer la Sainte-Cène à tout le monde ce matin, sans exception. Donc on va prendre ce temps parce que la Sainte-Cène, c'est quoi? C'est l'Évangile. C'est l'Évangile illustré, l'Évangile symbolisé dans ces deux éléments. Le pain et le vin, le corps et le sang de Jésus, la mort de Jésus. On est au cœur, au centre de l'Évangile. Donc, nous allons nous souvenir ensemble de cette œuvre que Christ a accomplie et qui est la base même de notre transformation. Seigneur, nous voulons tenir compte de ce que Paul a dit à Pierre ce jour-là, parce que c'est ce qu'il pourrait nous dire aussi aujourd'hui par rapport à certaines choses qui devraient, qui doivent changer dans notre vie. Et il nous dirait, Daniel ou quelqu'un d'autre ici, tu as besoin de plus d'Évangile. L'Évangile est là pour toute ta vie et tous les domaines de ta vie, quels qu'ils soient. Alors Seigneur, nous voulons te laisser faire cette œuvre en nous, afin que le changement ne soit pas un changement provisoire, mais un changement définitif, durable, Seigneur. Comme nous l'avons déjà vécu, certainement les uns et les autres, dans certains domaines de notre vie où nous pouvons te bénir et te glorifier parce que nous ne sommes plus comme avant. Nous ne faisons plus comme avant. Nous ne parlons plus comme avant. Nous ne réagissons plus comme avant. Mais nous avons encore besoin de changer. Alors viens, Seigneur, et influence-nous. Nous voulons vivre en toi. Nous voulons te dire que tu es notre vie, Seigneur, que nous sommes en Christ. Et comme Paul le dit, notre vie est cachée en Christ. Merci Seigneur de nous rappeler cela ce matin encore et de pouvoir partager ensemble ce repas, Seigneur. Et de le faire ensemble, Seigneur, quelles que soient nos origines sociales, culturelles. Il n'y a plus de barrières, Seigneur. C'est les hommes qui ont mis ces barrières, c'est le mal qui a fait cela. Toi, tu as mis par terre ces barrières, Seigneur, pour que soyons un devant toi, Seigneur. Bénissons ton nom, dans le nom de Jésus.